Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Libero.
Halud Mouni.
Chen Libéri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue du jour. Grand Dialogue du jour qui est consacré au sujet de l'actualité. Pour en débattre, en aborder, nous sommes dans ce studio avec les honorables, les élus de la nation, élus, les élus de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes avec Michel Bakary Diarra et Boubacar Cissokho de l'Alliance pour le Mali, membre de la majorité, et les honorables Modi Ndiaye et Alkadi Touré de la Vigilance républicaine démocratique de l'opposition à l'Assemblée nationale. Alors, les questions du jour portent sur les rapports du gouvernement avec le FMI, le virus Ebola, la fin de la quarantaine, de la polémique clinique Pasteur, les nouvelles propositions de la médiation et l'affaire du député Boubacar Traoré. Mesdames et messieurs, bonsoir. Michel Bakary Diarra, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le bienvenu pour ce débat. Monsieur Boubacar Cissokho, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Modi Ndiaye, bonsoir.
Bonsoir, Studio Tamani.
L'honorable Alkadi Touré de la Vigilance républicaine également, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Ok, la toute première question, c'est la fin de la quarantaine de la polyclinique Pasteur. Est-ce que cela signifie la fin de l'épidémie? Qui voudrait intervenir en premier lieu? Monsieur Bakary Traoré, Bakary Diarra, disons.
Merci, vous avez bien fait de rectifier. Je ne suis pas Bakary Traoré, je suis Bakary Diarra. Deuxième rectificatif, je suis avec Cissokho du RPM, pas de l'Alliance pour le Mali.
Du RPM.
Deuxième rectificatif, il s'agit de Bourama Tidiane Traoré et non Aboubacar Traoré.
Bourama Tidiane Traoré. Traoré,
voilà.
Oui, c'est Bourama, hein, on a dit Bourama. L'affaire voilà. Du député Bourama Traoré.
Bourama Tidiane
Traoré,
voilà.
Okay. D'accord, allez-y.
Merci. Par rapport au cas Ebola, dire que la quarantaine est finie, dire que si Ebola est fini, je ne peux pas dire que Ebola est fini, mais je souhaite que Ebola s'arrête à ce niveau. C'était juste un temps d'observation qui, au bout de 21 jours, on trouve qu'il n'y a pas de signe annonciateur d'un cas d'Ebola. C'est la bienvenue pour toute la population, mais la vigilance doit demeurer. Voici l'observation que j'ai par rapport à ça, et c'est le grand souhait pour moi et tout le rassemblement pour le Mali que Ebola s'arrête à ce niveau.
L'honorable Modi Ndiaye, qu'est-ce que vous en pensez? Le Mali, 10 jours sans un cas du virus Ebola et avec la fin de la quarantaine de la polyclinique Pasteur, est-ce autant faut-il baisser la garde ou dire ouf, ça y est?
Je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, c'est en ce moment précis qu'il faut renforcer la vigilance et la garde. Et c'est dans cette optique d'ailleurs que le ministre de la Santé a fait l'objet d'une question orale sur la question aujourd'hui. Et le gouvernement lui-même a été interpellé pour parler d'autres sujets parmi lesquels il y a toujours la question d'Ebola. Comme vous le savez, Ebola est une maladie extrêmement grave. Et dès l'instant où notre pays a été attaqué, cela a nous amené à renforcer notre dispositif. Et comme vous le savez, nous on avait eu tellement peur qu'on avait pensé qu'il était même bon pendant un mois de fermer la frontière, de mettre le système en place et de le rouvrir en vue de bien maîtriser, de cantonner d'abord les cas que nous avons, de les bien maîtriser pour qu'il n'y ait plus d'Ebola dans notre pays.
Alors, l'honorable Alkadi Touré, est-ce que vous comprenez cet accord entre le Mali et la Guinée pour mieux surveiller les frontières? Est-ce que vous pensez que ça participe de cette veille permanente toujours?
Oui, mais merci beaucoup. J'ai dit, le président a tout dit. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut fermer la frontière. On n'a pas dit de fermer la frontière de manière permanente, mais au moins un mois, le temps qu'ils coordonnent tout ce qu'ils peuvent par rapport à disposition pour qu'on puisse vaincre la maladie. C'est ce qui a été demandé. Mais puisque vous parlez de la clinique Pasteur, moi, le problème que je pose, c'est qu'une clinique d'une aussi grande portée qui ne peut même pas et diagnostiquer qu'un malade qui a été admis dans cet hôpital a atteint d'Ebola. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire même que les autres sont guéris? Parce que ça, moi, je ne comprends pas.
Quelqu'un qui ne peut pas... Le ministre de la Santé était à l'Assemblée aujourd'hui pour les questions orales. Est-ce qu'il vous a convaincu? Qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à ça?
Bon, ils disent toujours, moi je reste toujours constant, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que depuis le moment où ils ont entendu que Ebola est en Guinée, Il devrait y avoir toutes les dispositions là-bas. Et si les dispositions étaient là, la vieille là ne serait pas venue ici à Bozola, mais on aurait détecté qu'elle était atteinte d'Ebola ou sa fille a été atteinte d'Ebola à la frontière. Donc c'est parce que les dispositions n'ont pas été prises. Mais chaque fois, ils viennent nous dire tout ce qui est en train d'être fait, ça a été fait maintenant qu'il y a eu la maladie. Toutes les dispositions, que ce soit la formation, que ce soit le truc de protection, là, tout ça c'est maintenant qu'ils ont mis en place.
Donc pour on aurait dû anticiper.
Depuis longtemps qu'il y a eu la maladie au niveau de la frontière, on devrait prendre toutes ces dispositions anticipées. Et c'est ce qui n'a pas été fait.
L'honorable Bouaka Sissoko, c'est votre avis, on devrait pouvoir anticiper. D'abord, le ministre était à l'Assemblée aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a convaincu?
Très convaincant, un ministre très serein.
On va réserver la même question pour Moudinga. Il va vous répondre là-dessus après.
Oui. D'abord, moi, je profite de l'occasion pour d'abord saluer tous les auditeurs du studio Tamani et féliciter le gouvernement pour son esprit d'anticipation. Je suis député élu.
Vous le dites en tant qu'élu, membre de la majorité ou bien en âme et conscience?
Non, vous me laissez venir.
D'accord.
C'est ma deuxième fois autour de ce studio et surtout autour de ce même thème. Donc je félicite le gouvernement pour son esprit d'anticipation. Moi je viens d'un cercle qui partage plus de 200 à 300 kilomètres de frontière avec la Guinée, le cercle de Kenyeba. Mais je vous dis, depuis le mois de mars, depuis les premiers signes, depuis le premier cas d'Ebola en Guinée, une cellule de crise a été créée et qui fonctionne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cette cellule a été nantie de moyens financiers, de moyens matériels, roulants, pour prévenir la pénétration avec l'implication des autorités administratives, sanitaires, politiques et d'autres partenaires. Donc c'est pourquoi aujourd'hui le ministre, pour vous dire que nous sommes dans une gouvernance où on ne cache rien. Nous avons partagé les opinions. À l'heure où je vous parle même, il est même sur les antennes autour de cette situation et il s'est prêté à toutes les questions pour prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Donc j'avais dit ici, restons vigilants et ayons confiance en nous-mêmes, n'ayons pas peur. Ayons confiance en nos hommes que nous avons choisis pour gérer cette situation, accompagnons-les, respectons tous les conseils qu'ils vont nous donner par rapport.
D'accord. L'honorable Moudinga, nous sommes dans une gouvernance qui ne cache rien. Le ministre vous a convaincu?
Bon, je crois que le ministre est venu faire le constat qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, mais qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et je dois signaler au passage que, en fait, d'après ses explications, au départ, ils avaient mis un système sommaire qui n'était pas performant et dont la défaillance a permis d'affecter directement notre pays pour lequel il y a eu des morts, dont deux personnels de la santé. Et je veux vous rappeler seulement qu'il a fallu que l'opposition fasse une conférence de presse et fasse la proposition d'une fermeture pendant un mois pour que les autorités montent au créneau, pour que le président se déplace lui-même et le premier ministre est sur tous les fronts. Nous visons les mêmes objectifs, c'est d'éviter que notre pays ne soit un pays d'Ebola. Donc nous apprécions tous les efforts qui sont faits aujourd'hui, mais il faut reconnaître que les systèmes élémentaires, les structures élémentaires de base comme les CESCOM n'ont pas aujourd'hui les kits qu'il faut, n'ont pas les moyens qu'il faut. Et c'est la même chose que les structures privées. On a écouté certains qui nous ont dit que quand quelqu'un vient chez eux et qu'ils savent que sa température est à 38, ils appellent tout de suite, venez prendre la personne parce que nous, on n'a aucun moyen pour faire ceci ou cela. Je veux dire qu'aujourd'hui, tout le monde a intérêt à ce que notre pays ne soit pas un pays d'Ebola. Certains pays l'ont reçu. Quand ils ont eu un seul cas, ils ont pris des mesures drastiques. Et c'est des pays qui sont qualifiés aujourd'hui de libres d'Ebola. Et ce n'est pas encore le cas pour notre pays. Et nous souhaitons vivement que notre pays soit dans ce cas.
Oui, M. Bakary Diarra, du RPM, vous êtes d'avis qu'il faut prendre des mesures drastiques?
Je dis, si les mesures doivent être drastiques pour sauver les Maliens, il n'y a pas de problème. Mais la fermeture des frontières aussi, c'est aussi une autre réalité. Les hommes, souvent, à un certain niveau, quand vous augmentez la pression...
Mais c'est intervenant sur le Mali et la Guinée pour un mois.
Oui, c'est à des moments donnés, c'est précis. Mais je dis, ce n'est pas la fermeture, mais c'est le comportement des hommes. Les dispositions sont prises. Il y a un adage qui dit, quand tu dis et donnes ton coupe-coupe à quelqu'un pour couper du bois, la confiance ne supprime pas le contrôle, il faut contrôler. Quand les gens sont désignés pour jouer telle ou telle responsabilité, ils font du n'importe quoi. Et c'est ce qui a failli. Moi, je dis, quand j'ai le 23, moi, j'ai quitté la clinique. 24-25, il est arrivé. Là où je suis resté sur ma faim, je ne peux pas comprendre, même si je suis de la majorité, je ne peux pas comprendre un médecin qui reçoit un malade. C'est son origine, d'où il vient. Ça, ça devrait être un premier élément. Et c'est là où la responsabilité du personnel soignant est engagée.
Identifier ça, le personnel.
Identifier le malade d'abord. Surtout qu'il vient d'un pays contaminé. Si ça avait été fait, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau. Maintenant, par rapport à la sécurisation des centres de santé, j'ai dit qu'il faut encore améliorer le système. Ce qu'ils ont dit, c'est la réalité au niveau des centres de santé. Et Dieu merci, par mes petits moyens, moi-même j'ai mis des dispositions, des dispositifs dans 10 ESCOM de la ville de Sikasso. Parce que le besoin est là, parce que ça n'existait pas. J'ai fait le tour de la ville pour constater d'abord l'absence de dispositifs. Et je me suis engagé à apporter ma petite contribution. Donc ce qui est dit est une réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai souhaité, ça va être maîtrisé. Mais qu'on reste quand même à l'alerte, qu'on suive la réalité. C'est tous les Maliens qui sont engagés, comme le président l'avait dit, c'est une question de défense nationale. Il faut que chacun apporte sa petite pierre, qu'on reste soudé, qu'on puisse analyser les réactions des uns et des autres, recenser les propositions, apporter les solutions adéquates. C'est à ce niveau qu'on se trouve. Mais Ebola au Mali aujourd'hui, c'est parce que les deux cas, le médecin et l'infirmier, parce qu'à la clinique Singa, les gens n'ont pas agi comme ça se doit. Imaginez-vous, je félicite le vieux infirmier qui est à la retraite à Kaye. Quand il a reçu l'enfant, il a fait ses premiers soins, il a vu qu'il n'y a pas d'amélioration. Tout de suite, il a référé l'enfant à l'hôpital de Kaye. Et les dispositions ont été prises pour sauver la population. Et ce qui n'a pas, c'est la même démarche n'a pas été adoptée au niveau de la clinique. C'est pourquoi j'ai dit une grande question est posée au niveau des structures privées. Parce que qu'on fasse attention, les gens vont peut-être venir, on va gérer dans des situations secrètes. Ce n'est pas bon. Qu'on puisse prendre la responsabilité de déclarer, c'est comme un député l'a dit aujourd'hui, Ebola aujourd'hui, la déclaration est obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu deviens un danger pour toute la population. Mais qu'on puisse améliorer les conditions de travail au niveau des frontières. Mais ce n'est pas seulement le personnel, c'est parce que au niveau de la sécurité aussi, les frontières, la police, la gendarmerie à la frontière, ils ne font pas leur travail. Sinon, un enfant de 2 ans qui traverse une frontière, normalement, il y a des pièces justificatives pour dire que l'enfant a droit à ce mouvement. J'ai été maire, moi j'ai l'habitude de dire à des enfants, vous ne quittez pas, à des parents, les enfants ne quittent pas la commune sans papier.
Sans l'autorisation parentale.
Voilà. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut vraiment voir pour savoir que c'est une question de comportement.
Donc, on peut dire que c'est des règles méconnues pour le moment, mais on ne jette pas la pierre ni à la police ni à la gendarmerie. Donc, on va observer la pause en attendant. Ouais.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Je rappelle aux auditeurs que Grand Dialogue du jour est consacré au fait de l'actualité dans le virus Ebola pour en débattre. Nous sommes dans ce studio avec les honorables Bakary Diarra et Boubacar Sissoko du RPM, Alkadi Touré et Modi Ndiaye de la Vigilance républicaine démocratique de l'opposition à l'Assemblée nationale. Alors, nous sommes toujours sous la question du virus Ebola. Monsieur Boubacar Sissoko, vous voulez réagir?
Oui, moi je voulais vraiment réagir. Nous ne sommes pas là pour dire qui a fait quoi et qui est responsable de quoi.
Mais non, personne n'a dit ici qui a fait quoi, qui n'a pas
non,
fait
non,
quoi.
Non, vous me laissez, s'il vous plaît, aller au fond. Les perturbations font perdre la chaîne de raisonnement. Je voulais tout simplement dire. Oui. Que la réaction du gouvernement, le comportement du gouvernement n'est pas une réaction suite à une conférence de presse quelconque. Moi, je viens de rappeler.
Et rien ne le prouve.
Non, non, pour vous. Pour moi, je parle avec preuve. Je vous dis qu'à partir du premier cas, le gouvernement a mis en place une cellule de crise de gestion.
Oui, il y a eu premier cas, c'est le cas
ça
de
c'est
Lima.
Bien. Non, ça c'est j'ai le premier que... cas en Guinée. Ouais. Non, 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 ne faites pas de parti pris, monsieur
non,
le
président. Non, je ne fais pas de parti pris.
Non,
allez-y,
Ne faites pas de parti pris, je vous prie d'être vraiment neutre le plus
je
que
suis
possible.
Neutre. Ouais.
Donc, je voudrais vous dire qu'à partir du mois de mars, en ce moment, la vigilance républicaine n'avait pas organisé de conférence de presse. Le gouvernement a mis en place une cellule de crise pour gérer une frontière de près de 300 km. Pour sécuriser une frontière de plus de 300 km avec un budget de 345 millions. Ça, c'est un effort, un esprit d'anticipation qu'il faut saluer. Je suis d'accord. Je suis d'accord que peut-être, au niveau de la clinique Pasteur, il y a une négligence. Mais est-ce là la responsabilité?
Mais avant la clinique Pasteur?
Avant la clinique Pasteur,
l'imam,
c'est qui c'est?
L'imam de la Guinée de Sigirin, paix à son âme, est rentré par Kouré-Malé. Il a séjourné dans une clinique privée à Kouré-Malé avant de venir à la clinique Pasteur.
Je voulais en venir d'abord au premier cas.
Voilà.
L'enfant, la fillette de Kaye, était avec un de ses parents. Donc les sécurités n'étaient pas en droit de demander, elle était avec sa grand-mère maternelle. Donc c'était une sécurité suffisante pour que les autorités puissent lui laisser passer. Surtout, il n'y a pas de passeport entre la Guinée et le Mali. Il n'y a pas de passeport. Donc tout cela, un adage malinqué dit, celui qui cherche l'eau, celui qui veut couper des feuilles, tout ça là c'est pour éteindre le feu. Souhaitons que le feu Ebola soit vraiment étouffé au niveau du truc. Et je répète encore, je salue l'esprit d'anticipation et surtout le professionnalisme avec lequel c'est la première fois en Afrique occidentale que nous nous trouvons confrontés à cette maladie.
Donc vous admettez qu'il puisse y avoir des défaillances?
Je reconnais qu'il y a eu des défaillances, mais il faut reconnaître les efforts fournis.
Ok. L'Union européenne s'apprête à mettre à assurer la formation de 5000 agents de la santé dans la sous-région, dont le Mali. Alors, l'honorable Al-Kadi Touré, pour vous, est-ce que c'est de nature à contribuer vraiment à mieux lutter, à faire disparaître vraiment, comme c'est notre V, c'est le virus Ebola?
Oui, toutes les formations sont utiles, quel que soit le domaine dans lequel elles sont faites. Mais je voudrais rebondir sur la question de l'honorable Sissoko. C'est-à-dire, nous sommes des députés. Il faudrait que nous comprenions que nous défendons d'abord le Mali avant de défendre un parti. Les choses sont claires. J'ai dit que Ebola a été déclaré en République sœur de Guinée. Qu'est-ce qui a été fait? C'est tout. Si quelque chose avait été fait, j'ai dit que la petite fille là qui est venue jusqu'à Bozola ne serait pas arrivée à Bozola sans que le cas soit détecté à la frontière. Point à la ligne. Donc il n'y a eu absolument rien. C'est quand la maladie s'est manifestée qu'il y a eu des dispositifs, qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dedans. Ce n'est pas un problème d'RPM, ce n'est pas un problème de machin de VRD. Par rapport à la formation, j'ai dit toutes les formations sont utiles. Et c'est ce que j'ai dit. Le premier cri que j'avais fait ici, c'est qu'il faut prendre attache avec tous les partenaires pour qu'ils nous aident à ce qu'on puisse. C'est ce que j'avais dit. Moi, je maintiens toujours. Je suis constant, je ne suis pas comme lui qui est toujours partisan.
D'accord. Les rapports se normalisent entre le FMI et la Banque mondiale. Le FMI qui vient de débloquer plusieurs millions de dollars, dollars américains pour le Mali. Est-ce que peut-on dire pour autant que les rapports se normalisent? L'honorable Al-Kadi Touré,
de
la vigilance républicaine.
Merci beaucoup, mais le problème économique, le spécialiste maison est là, il faut lui donner la parole.
Ok, l'honorable Modi Ndiaye.
Je vous remercie. Vous savez, nous avons beaucoup d'années de coopération avec les institutions de Bretton Woods. C'est avec un cas malheureux de mauvaise gouvernance qui a amené en fait une suspension pendant 6 à 8 mois. Et nous sommes très très heureux que la coopération reprenne. Et nous pensons que les éléments pour lesquels la coopération a été reprise, c'est des éléments qui vont conforter la bonne gouvernance dans notre pays et qui vont permettre effectivement de bons rapports de coopération avec ces institutions. Mais ce qui est important de noter, c'est que, en fait, ce qu'on retient comme principaux enseignements, d'abord, le dispositif financier qu'on avait, ce n'était pas un très bon dispositif, et il y a eu des manquements aux violations à la législation financière. Et je crois que le gouvernement a pris conscience de cela, a pris donc les textes qu'il fallait, réglementaires, pour régler un certain nombre de choses. Et puis les dépenses extra-budgétaires qui avaient été faites de façon extravagante, ils ont eu un accord pour circonscrire d'abord, un, le niveau de ces dépenses à celles qui ont été effectivement effectuées en 2014, parce que c'était des dépenses qui étaient étalées sur 3 ou 4 ans, premièrement. Deuxièmement, annuler toutes les dépenses qui n'ont pas fait l'objet d'exécution en 2014, et finalement faire des collectifs pour prendre en charge vraiment ces dépenses extra-budgétaires. Ça, c'est le premier volet, régularisation. Mais vous savez qu'à la matière, quand il y a une faute, la régularisation, c'est une mesure nécessaire, mais elle n'est pas suffisante.
Oui, monsieur Boakar, c'est ce que RPM va réagir en attendant. On reviendra à vous. Oui. Vraiment, est-ce que les rapports se normalisent pour autant?
Les rapports, vraiment, nous le souhaitons. Nous venons de le constater. Je viens même de déposer un communiqué de remerciement au nom du groupe RPM. Mais je voudrais vous rappeler que depuis que je suis assez stable, si ce n'est pas cette fois-ci, je n'ai jamais prononcé le nom de mon parti. Ça veut dire que j'ai conscience que je suis un élu de la nation.
C'est l'honorable Bakary Diarra qui me l'a rappelé.
Non. On venait de vous dire, peut-être que vous ne suivez pas le débat. Okay. Al-Gaïri m'a dit que je suis partisan et que je suis là pour défendre le RPM. Vous l'avez
vu. Ah ouais, il a dit?
Ah, justement, même s'il y a une volonté de ne pas l'entendre, ça a été vraiment dit sur ses antennes. Donc, pour la mauvaise gouvernance. Bon, vraiment, je reconnais.
Non, est-ce que les rapports se normalisent?
Les rapports tendent à se normaliser. Les rapports tendent à se normaliser. Mais l'honorable a parlé de que ce sont les conséquences de mauvaise gouvernance. Moi, je pense que peut-être que autour de cette situation, il y a peut-être mauvaise appréciation de certains comportements. Et après avoir analysé, après avoir eu la vraie version des situations, c'est ce qui a pesé en faveur de notre pays et la confiance est revenue. Je regrette, effectivement, il y a eu des dépenses extra-budgétaires, ça on ne tourne pas, je ne suis vraiment pas un spécialiste de la chose, mais ça fait beaucoup de tollé. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est surtout la bonne volonté du président de la République qui a accepté de remettre tous les documents afférents à ces deux situations-là, au vérificateur général et à la Cour suprême, pour montrer combien de fois il est blanc et combien de fois nous voulons être transparents. C'est une première dans notre gouvernance.
Okay. Et l'honorable Modi Ndiaye, est-ce que la bonne volonté du gouvernement pour faire la transparence, est-ce que ça suffit? Faut-il des sanctions?
Les sanctions sont incontournables. C'est des conditions suffisantes pour pouvoir boucler en fait cette affaire malencontreuse. Je dois dire, si aujourd'hui le gouvernement a pris sur lui, ce n'est pas le président, le gouvernement de la République du Mali, a pris sur lui le fait de faire des audits par les structures nationales, c'est sur injonction du FMI. Ce n'est pas une volonté délibérée. Parce que quand nous, on avait dit qu'il y avait toutes ces déviances au plan des finances publiques, les gens ne nous écoutaient pas. Mais quand les institutions de Bretton Woods ont dit « Nous, nous suspendons jusqu'à ce qu'on voit clairement ce qui se passe. » Et sous condition, un, vous faites les audits. Deux, vous publiez les audits, 3, et vous faites les sanctions. Maintenant, c'est ce troisième pan de solution qu'il faut faire. Et en démocratie, il faut se dire que quand des gens à un niveau très élevé, comme des positions de ministres, faute, violent les lois de la République, pour le respect de la fonction de ministre, ils doivent se démettre. Et c'est ce qu'on n'a pas vu encore. Et puis, il est trop tôt de dire qui est responsable, qui n'est pas responsable. La vérité sera sûre. D'accord. Et les sanctions doivent tomber pour que plus jamais de tels trucs ne se fassent plus dans notre pays.
Ok, l'honorable Bakary Diarra, il y a eu faute? Faut-il des sanctions?
Dire qu'il y a eu faute ou il n'y a pas eu faute, au risque de...
Faute peut-être pas intentionnellement.
Bon, faute pas intentionnellement, c'est-à-dire vous avez d'abord parlé de mauvaise gouvernance. Peut-être que je pense que c'est possible.
Qui a parlé de mauvaise gouvernance? Pas en tout cas moi.
Voilà. Donc s'il y a eu mauvaise gouvernance, je pense que la correction aussi est venue de se soumettre à l'appréciation du système monétaire international. Mais je dis, en tant que député malien et de la majorité, je dis, il ne faut pas arrêter à ce niveau. Personnellement, moi-même, je souhaite les sanctions, que les responsabilités soient situées. C'est que l'honorable vient de dire que des démissions peut-être devraient suivre parce que c'était dans l'habitude des Maliens. Tu le fais, on crie, et puis il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'enquête. Je pense que je ne maîtrise pas l'appareil gouvernemental, peut-être comme le doyen Mourinho, mais je dis que s'il y a mauvaise gouvernance, je dis que tout ça, c'est dû à des habitudes. Les gens, ils agissent. Il n'y a jamais eu de sanctions. Les enquêtes sont promises. Il n'y a jamais de résultat. Ça se termine en queue de poisson. Mais je souhaite que ça ne soit pas le cas cette fois-ci pour sauver le Mali. Je dis aussi que la situation se normalise. Parce qu'au moment où on accepte que des gens, un œil extérieur vienne quand même voir là-dedans, c'est déjà bon. C'est aussi un effet de bonne gouvernance.
D'accord.
Ça, il faut le reconnaître. Mais j'ai dit, je ne peux pas tout de suite me prononcer sur l'élément parce que je ne suis pas spécialiste des finances, mais je suis aussi membre d'une institution qui fait que je sais que si on parle de mauvaise gouvernance et des ministres qui sont incriminés, étant membre de la Haute Cour de justice, il est très difficile pour moi de me prononcer sur l'élément.
D'accord. Voilà. El Khali Touré, on dit qu'il faut sanctionner parce que le Mali, pour sauver le Mali.
Oui, je laisse toujours la parole à mon spécialiste. Si c'est les questions de droit, je répondrai.
Okay. Je vais dire, on a une bonne pratique depuis 1991, depuis qu'on est rentré en démocratie. Chaque fois qu'il y a des questions d'affaires qui touchent les ministres, ils sont démis. On a vu un ministre de la République qui n'a fait que 30 jours. 30 jours, parce que tout simplement, il a été cité dans une affaire de 10 millions. Il est sorti du gouvernement. Nous avons vu les situations où un ministre a été incriminé dans un truc de passeport. Il est sorti du gouvernement. Dans l'opération des télécoms, il est sorti du gouvernement. Et sous le régime de ATT, deux ministres sont sortis du gouvernement pour la même chose. Quand la BEI, la Banque internationale à Bruxelles, a incriminé un de nos ministres, il est sorti du gouvernement pour aller après là. Il y a eu tout, mais il n'y a rien eu, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec le ministre de la Santé. Quand on dit par rapport au Fonds mondial, il est incriminé dans les trucs, il sort. C'est ça la bonne gouvernance. Or, aujourd'hui, manifestement, le vérificateur général qui a le pouvoir de saisir directement le procureur pour des malversations, il a fait le travail et c'est des ministres de la République qui sont incriminés. Et ces ministres sont encore dans le gouvernement. Oui. Ça, ce n'est pas la démocratie.
L'honorable Boubacar Sissoko, les ministres doivent se démettre.
Moi, je suis très fier de la démocratie malienne à l'état actuel, chèrement acquise à prix de sang. Et l'honorable me réconforte en démontrant tout de suite par son intervention que la mauvaise gouvernance ne vient pas de commencer avec ce régime. C'est regrettable. Mais nous avons comme mission aujourd'hui de corriger justement. Une habitude ne s'installe pas en un seul jour.
On ne la combat pas en un seul jour.
Ça ne s'installe pas en un seul jour. Une habitude, c'est une somme. C'est une somme de mauvais comportements. Donc, nous sommes vraiment très sereins. Et le gouvernement que nous dirigeons, nous avons créé toutes les structures nécessaires pour arriver à une punition exemplaire de ces mauvais, de telles pratiques. La Haute Cour est là, moi-même, je suis membre de la Haute Cour de justice. L'honorable Lakaïdé est membre de la Haute Cour de justice. L'honorable Bakary Diarra est membre de la Haute Cour de justice. Et nous avons pris, je vous rappelle, c'est la première fois qu'une loi porte comme intitulé Prévention et répression de l'enrichissement illicite.
Ok, d'accord. On va aller à la pause, le temps d'y revenir.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
D'accord, nous allons aborder la troisième partie de ce débat, grand dialogue du jour avec les honorables élus, les honorables députés de la nation, M. Modi Ndiaye et El Khali Touré de la Vision républicaine, Bakary Diarra et Boubacar Sissoko du RPM, membre de la majorité présidentielle. Alors, la médiation vient de faire de nouvelles propositions à l'État malien et aux mouvements armés. Alors, quelle lecture vous faites de ce document et quelle est, selon vous, l'alternative? La toute première question à M. Adona Boubacar Sissoko du RPM. Quelle lecture vous faites du document remis par la médiation, les éléments de paix et pour la réconciliation au Mali?
Moi, je vous remercie. Par rapport à ce sujet,
vraiment, vous allez devoir m'excuser parce que, comme la fois dernière, compte tenu de ma position, compte tenu de la structure que je représente et pour tout le crédit que je porte vraiment à votre studio, un document que nous n'avons pas reçu d'abord de façon officielle pour faire une lecture, je ne pourrais vraiment pas me prononcer par rapport à ce document. Je ne l'ai pas vu de façon officielle, donc tout ce que je peux vous dire ne peut être que partisan.
Luna Bakary Diarra, du RPM.
Merci, je ne sais pas si vous me permettez de revenir un peu en arrière. Quand Modignay parle de démocratie, si un député sait déjà qu'il y a un ministre qui est incriminé dans un dossier et qui continue à servir le pays, entre guillemets, anormalement, je pense que tout député, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, son rôle, c'est de l'interpeller. À la limite, il interpelle le ministre de la Justice pour dire qu'il y a telle personne, tel ministre qui est en faute et qui continue ses fonctions, ce n'est pas normal. C'est ça aussi la démocratie. Mm-hmm. Mais si ce n'est pas fait, c'est pour dire que majorité aussi bien que opposition, tout le monde a vu, a su et tout le monde a accompagné. Mm-hmm. Et donc je pense que c'est des éléments qu'il faut quand même voir et corriger. Mm-hmm. Par rapport au document d'Alger, comme l'autre l'a dit, je ne sais pas ce que vous appelez nouvelle proposition. Je pense que nous avons à un certain moment analysé des documents et nous avons eu des réactions et qui partaient dans le même sens que le gouvernement. Parce qu'il y avait des éléments là-dedans qui trouvent leur essence dans la décentralisation et qu'on voulait amener des formations qui n'ont rien à voir avec la coopération intercommunale, intercollectivité. Maintenant, s'il y a eu d'autres propositions au-delà de ça, je n'ai pas encore eu le document. J'ai vu à la télé hier qu'il y a le gouvernement en train de présenter les propositions aux gens et qu'il y a des apports à faire. Pour le moment, le dernier voyage à Alger, je n'ai pas les résultats, je ne peux pas me prononcer sur le document. Et maintenant, s'il y avait des questions spécifiques, et peut-être personnellement je peux donner mon avis, au-delà de ça, je n'ai pas ces propositions.
Vous ne savez pas jusqu'à preuve du contraire qu'on a proposé une nouvelle architecturale pour les régions du Nord.
Une nouvelle architecture...
Avec cette possibilité d'autonomie de gestion.
Non, la possibilité d'autonomie de gestion, qu'est-ce qu'on dit? S'il y a des dispositions à prendre, c'est pour tous les pays. C'est pour toutes les régions. Mais il ne peut pas avoir des distinctions d'autonomie de gestion entre les régions. Ce n'est pas possible.
Ok. Donc, l'honorable Al-Khadi, dans la vigilance républicaine démocratique.
Bon, moi, je vous dis simplement que le troisième round, là, il paraît que les rebelles n'étaient même pas venus. Ils ne se sont pas vus. Mais après, on a fait une proposition. Et cette proposition revient à la même chose. Aux anciens accords d'Alger qu'on a rejetés, d'ATT qu'on a rejetés. C'est la même chose, c'est du copier-coller. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer d'autre? C'est tout, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y en aura rien là-dedans. Parce que je dis, tant qu'on ne va pas accepter qu'on mette sur table tous les problèmes qui fâchent et que nous nous fâchons tous, que nous nous fâchons jusqu'à nous bomber. Après, on revient par élimination. Enlever tous les problèmes qui fâchent et prendre ce qui ne fâche personne, on ne s'en sortira pas de cette histoire.
Quels sont quelques-uns de ces problèmes?
Tous les problèmes qui fâchent.
Oui, les problèmes qui fâchent.
Les problèmes qui fâchent, le Mali, on ne veut pas d'autonomie. On ne veut pas de fédéralisme. Et les autres aussi, ceux qui fâchent, il faudrait qu'on mette le fédéralisme. On met tous les problèmes, tout ce qui s'est passé, ce que le Mali a fait, ce que les rebelles ont fait. Parce que, c'est-à-dire, ce n'est pas les rebelles seulement qui ont fauté. Même du côté des forces des armées, il y a eu des bavures. Il faut reconnaître le tout à la fois. Donc, on met sur la table tous les problèmes qui fâchent. En ce moment, chacun va se fâcher. Après, on procède par élimination. Jusqu'à ce que personne ne se fâche, le problème est réglé.
L'honorable Moulingue, la vigilante républicaine.
Donc... Je vous remercie beaucoup. Je vais répondre d'abord à ce qui a été dit pour clarifier un peu les choses. Je pense que s'il y a dénonciation de la mauvaise gestion budgétaire par le gouvernement, c'est bien sûr mon groupe, moi en tant que président, groupe Vigilance républicaine et démocratique, qui l'a fait en déposant une motion de censure pour dire que le gouvernement doit partir parce qu'il gère mal.
D'accord,
mais quand cela ne tienne.
Voilà, nous sommes à la médiation.
Oui,
voilà,
je veux dire seulement, institutionnellement parlant, il n'essayait pas de demander au ministre de la Justice de démettre qui que ce soit. Ce n'est pas son rôle, lui-même il a élu. On laisse ça de côté. Maintenant, concernant les accords. Aujourd'hui, il y a un document pré-accord que le gouvernement est en train de discuter. Ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, la majorité parlementaire ne sait pas que ce document est là, quand bien même le gouvernement est en train de disséminer ce document. Ça, c'est politiquement incorrect. Mais la lecture que nous avons faite, parce que nous nous anticipons qu'on a fait du préaccord, à quelques points près, à quelques formulations juridiques près, c'est la même chose que les documents que tout le monde a rejetés. Ça, je vous l'ai dit, c'est comme ça. Et nous, en tant que groupe et en tant que parti, nous sommes en train de nous organiser pour faire un atelier. Et c'est au sorti de cet atelier que nous allons sortir une proposition à nous qu'on va mettre sur la table du gouvernement pour avancer.
D'accord. Et que comme les élus ne sont pas bien avancés, n'ont pas été encore saisis par rapport aux propositions de la médiation, nous allons rebondir sur l'affaire du député Brahma Traoré. Il a été libéré hier. Est-ce que peut-on dire que le dossier est clos sur le plan judiciaire? L'honorable Bakary Diarra, du RPM.
Merci. Par rapport à cette regrettable situation.
Pourquoi c'est regrettable?
Oui, parce qu'on a dit un peu de tout, sauf la vraie version.
Comment ça?
Le député, il n'a pas frappé, il n'a pas porté main sur le juge. Il y a des radios qui sont allées voir le juge. La question lui a été posée. Qui a été le premier à porter main sur qui? Réponse n'a jamais été donnée.
Mais n'empêche, il y a eu altercation.
Et il y a eu altercation.
Et c'est là, c'est regrettable.
Et c'est regrettable que le député, en tant que député, pas la personne de Bourama, mais qu'on n'arrive pas à respecter le député. Un.
Et que le député aussi n'arrive pas à respecter
deux,
l'autorité judiciaire.
Que un juge qui ignore carrément le premier article de la Constitution qui dit que la personne humaine est sacrée et qu'on doit respecter l'intégrité de son corps, qui porte main sur quelqu'un et qui se met sur les antennes pour dire comment il a frappé. Premier aspect. Deuxième aspect, l'Assemblée qui, suite à une motion reconnue dans la Constitution, demande la suspension de la poursuite et que le procureur s'entête à donner laisser continuer l'affaire.
Le procureur
c'est un problème de constitution. Nous avons tous vu cette situation qui est déplorable. Mais moi, ma position, c'est quoi? C'est la paix dans ce pays, qu'on se respecte en tant qu'individu, que les institutions se respectent, qu'on n'amène pas de faux problèmes pour en ajouter à ce que nous vivons.
D'accord. Le nom Alkali Touré, oui. Bon, c'est une affaire regrettable?
Non, c'est une affaire très regrettable, c'est ce que je vous ai dit. Mais il y a eu deux responsables de deux grandes institutions qui ont eu maille à faire en temps. Ce n'est pas normal, et ce n'est pas logique, ce n'est pas bon. Mais au-delà de tout, j'ai dit que le droit est très simple. Moi, le flagrant délit, s'ils disent que c'est un flagrant délit parce qu'il s'est déplacé, mais il faudrait que les gens disent les choses aussi. Si le juge ne l'avait pas invité à aller chez lui, il ne serait pas parti. Ça, c'est un premier constat. Il y a eu des faits. Et qu'on juge en fait, mais on a jugé sur la passion. Et c'est très, très regrettable. Tout ce qu'ils sont en train de nous dire en droit, ils sont des juristes comme nous. Peut-être qu'ils sont des agrégés en droit. Nous, nous sommes des simples juristes. C'est du droit tout court. Mais c'est la Constitution est claire. L'article 62 de la Constitution est clair. Le premier alinéa, on dit que les députés bénéficient de l'immunité. Le deuxième alinéa, on parle de qui ne peut pas être poursuivi par rapport à ses votes et à ses opinions. Le troisième, on parle de la cession. Le quatrième, on parle de l'intercession. Et en définitive, on dit, malgré toutes ces considérations, à partir du moment où il y a eu le flagrant délit, il a été poursuivi, il a été détenu, si l'Assemblée requiert la suspension de la poursuite ou de la détention, on doit y déférer. C'est tout. C'est très banal, ça. On ne peut pas interpréter la Constitution.
Ouais.
Et c'est ce qui a été regrettable. Ça ne veut pas dire que la poursuite a été suspendue. Suspendue, est-ce que ça veut dire que ça a été arrêté?
Ok. L'honorable Boakar Sissoko, poursuite suspendue ou bien c'est fini? L'affaire, elle est close?
L'affaire n'est pas close et ce n'est même pas le souhait. Ce n'est même pas le souhait de l'Assemblée nationale. Ce matin, le président l'a appelé à l'entame de la session de ce matin. Il a dit
que tous les points de droit, il souhaiterait que tous les points de droit
soient dit,
que tous les points, l'affaire ira jusqu'au bout. L'affaire ira jusqu'au bout, c'est suspendu. Mais tout ce que moi je regrette, c'est que chacun n'a pas joué sa partition dans cette situation. Et surtout vous de la presse.
D'accord.
Okay. L'envergure donnée à cette situation, ça a été l'attitude de la presse et une attitude partisane de la presse.
Vous avez dit que la presse a banalisé l'affaire.
Non, la presse a pris parti.
Elle n'est pas allée au fond des choses.
Non, la presse a pris parti.
D'accord.
L'Assemblée nationale n'a été approchée par aucune presse pour donner, pour relayer sa version. Okay. Mais tout ceci est rié sur le procureur général pour faire asseoir dans la tête de la population que c'est le député qui s'est levé comme un fou et allait taper le juge.
D'accord. Luna Modingay, l'affaire elle est regrettable. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que pour autant le député a été libéré? Est-ce que l'affaire est close?
Vous savez, en fait, c'est un incident très malheureux. Et ça peut arriver à tout le monde. Que suite à une rencontre, que ça tourne mal. Malheureusement, le cas que nous avons vécu, c'est entre un député et un juge. Ce qui est regrettable également, c'est que politiquement, la chose n'a pas été gérée. On a voulu gérer en termes de droit. C'est vrai que les juges qui sont à la fois juges et partis dans cette affaire ont qualifié les faits
de flagrant délit
et d'outrage
à magistrat
dans l'exercice de ses fonctions ou à domicile. Ah. Et immédiatement, ils l'ont placé sous mandat de dépôt.
Oui.
Une fois placé sous mandat de dépôt, nous aussi sentons que si on laisse la procédure comme ça, les juges sont à la fois juges et partis dans cette affaire, nous avons fait usage pour la première fois du dernier alinéa de l'article 62 de la Constitution. C'est vrai que c'est la première fois que cette disposition a été mise en application. Donc ça posait des problèmes de compréhension. Mais je suis très heureux aujourd'hui, toutes les procédures ont été respectées. Et effectivement, la justice a donné aujourd'hui, même si c'est en appel, a donné droit à notre résolution. Ça, c'est réconfortant.
Et l'affaire est close.
L'affaire, elle peut être close. Parce que nous, notre résolution, c'était de dire c'est la suspension. Mais la déclaration que le procureur général a eu à faire hier soir allait dans le sens du retrait de la plainte du juge.
Et d'accord, voilà. Du retrait de la plainte du juge, le grand dialogue du jour prend fin, grand dialogue qui était consacré au fait de l'actualité. Dans ce studio, j'étais avec les honorables Bakary Diarra, Boakar Sissoko du RPM, les Modi Ndiaye et Alkali Touré de la Vigilance républicaine démocratique, membres de l'opposition à l'Assemblée nationale. Au micro, c'était moi-même Souleymane Kenza Sidibé. Merci à vous, portez-vous bien chez vous et à demain.
Grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Biro.
Halou de Mouni.
Chen Biro. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.